Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui, dans le studio, Philippe Méjean, salarié à la communauté de communes du Diois en charge, si je ne m'abuse, de la gestion des déchets, entre autres, je ne vais pas m'étendre dans les détails, et Noémie, nouvelle service civique à la communauté de communes, ambassadrice concernant la transition du fonctionnement des déchetteries du Diois. Donc, ils sont venus faire un petit point sur le fonctionnement des déchetteries du Diois et puis quelques précisions supplémentaires sur tout ce qui concerne les nouveaux équipements en matière de récolte de sacs poubelles. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, Philippe, peut-être commencer par toi pour nous préciser l'annonce principale, à savoir effectivement un nouveau mode de fonctionnement des 5 déchetteries du Diois. Qu'est-ce qui se passe de nouveau qui n'existait pas avant ?
Alors, il y a déjà eu un peu de nouveau au mois de novembre dernier, puisque les déchetteries ont ouvert à des horaires un peu différents à partir de novembre dernier, et surtout celle de Die a ouvert 6 jours sur 6, on va dire du lundi au samedi. Et nous sommes en harmonisation maintenant des horaires d'été sur l'ensemble des déchetteries, c'est-à-dire que toutes les déchetteries du Diois, Die, Minglon, Lucan-Diois, Lustac-Croix-Haute et La Motte-Chalancon, ouvrent l'après-midi de 14h à 18h pendant les 7 mois d'heure d'été, alors qu'elles ouvraient de 14h à 17h les après-midi où elles sont ouvertes pendant l'heure d'hiver. Donc ça, c'est le principal changement à retenir. Les déchetteries ouvrent une heure de plus l'après-midi. Le deuxième changement à retenir, c'est que, à titre d'essai, pendant cet été 2016, les déchetteries de Minglon et de Lucan-Diois seront désormais ouvertes tout le samedi, matin et après-midi, alors que jusque-là, l'une était ouverte le matin et l'autre l'après-midi pendant les heures d'hiver, ce qui reviendra à l'heure d'hiver dès le mois de novembre prochain.
Ce sont des horaires que chaque citoyen du Diois peut retrouver facilement sur le site de la communauté de communes du Diois ?
Oui, sur le site de la communauté de communes du Diois, et qu'il peut avoir également, s'il vient chercher autre nouveauté, sa carte d'accès en déchetterie dans sa mairie. On lui donnera en même temps un guide du tri au dos duquel figure le tableau des horaires des déchetteries été et hiver. Donc il peut garder ça, il aura également un autocollant magnétique qu'il pourra mettre sur son réfrigérateur ou tout autre support métallique qui donne les principales consignes de tri en rappel. Voilà, donc ces cartes d'accès en déchetterie, ça c'est l'autre nouveauté, sont désormais demandées par tous les gardiens à l'entrée des déchetteries depuis le 29 mars dernier, donc depuis le passage à l'heure d'été. Je fais les questions aussi. Pourquoi des cartes d'accès
en
déchetterie ?
Mais c'est patient, je te laissais venir. Pourquoi donc des cartes en déchetterie ? C'est parce que vous voulez éviter que des gens abusent à mettre tellement de déchets dans les bennes ?
Alors, non. Pas abuse, mais ce qu'il se passe, et ce qu'on a constaté qu'il se passait, c'est qu'on a un certain nombre d'apports qui ne viennent pas du territoire, puisque la carte d'accès en déchetterie est quelque chose qui se généralise sur l'ensemble du territoire français, avec différents modes de gestion de ces cartes selon les collectivités. Pour certaines, c'est gratuit, pour d'autres, ça ne l'est pas, pour les professionnels, pour les particuliers, etc. Sur le Diois, le choix est que ces cartes sont gratuites, et pour les particuliers, et pour les professionnels, mais que la présentation de la carte va être obligatoire, ce qui évitera ce qui se passe aujourd'hui, que notamment des professionnels extérieurs au territoire qui viennent travailler sur le Diois déposent des déchets de chantier qu'ils ont eu la veille dans leur secteur parce que pour eux, aller en déchetterie chez eux, c'est payant ou c'est plus contraignant parce qu'elle n'est pas ouverte, et que quand ils rentrent de leur chantier du Diois le soir, ils déposent aussi leurs déchets, alors que normalement, c'est aux contribuables du territoire que sont réservés les services payé par sa contribution, l'impôt. Voilà. L'idée, c'est de réserver l'accès aux déchetteries aux contribuables du Diois. Point.
Cette carte ne propose pas d'autres services, par exemple une puce RFID qui permettrait de savoir où est-ce qu'on en est de nos déchets ?
Alors, les cartes ont une puce, effectivement, mais les gardiens n'ont pas de lecteur. Voilà. Donc, on est en train de réfléchir, et je pense qu'on n'y viendra pas, c'est même sûr, là, la décision a été prise la semaine dernière, à une lecture simplement de la puce à l'arrivée. On avait eu cette hypothèse-là. L'objectif que nous avons cette année, c'est de faire des sondages, c'est-à-dire de savoir quels sont les apports précis en déchetterie par catégorie d'usagers, pour qu'on, derrière, qu'on puisse améliorer la façon dont on propose l'offre de tri dans les déchetteries et qu'on puisse éventuellement réguler si on a des abus. Dans certains domaines, on sait qu'on a encore beaucoup d'apports professionnels qui pourraient être, on va dire, orientés vers d'autres filières, puisqu'il faut savoir que normalement, les déchets professionnels sont traités par des filières adaptées, ad hoc, et que c'est par dérogation que le service public accepte les déchets des professionnels en petite quantité et dans la mesure où ce sont des déchets assimilables à des déchets ménagers. Voilà. Et on a déjà, ces dernières années, réorienté un certain nombre de déchets de professionnels du DIWA vers des filières de traitement professionnel. Et c'est mieux pour la collectivité, parce que ça évite un certain nombre de frais. Et ce n'est pas forcément bien plus coûteux pour les professionnels.
Ils ne payent pas, par contre, d'éco à la communauté de communes du DIWA pour gérer leurs déchets, puisqu'ils les emmènent ailleurs ou d'une autre façon.
La quasi-totalité des professionnels payent, comme les habitants, une taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui est basée sur leur imposition foncière, donc sur la taxe foncière. Ils payent la TOM, mais ils auraient à la payer, nombre de collectivités la perçoivent, même s'il y a une redevance spéciale qui est payé par des professionnels dans d'autres collectivités, souvent la collectivité garde la taxe à ordures ménagères parce que ça correspond aux déchets ménagers qui peuvent être jetés dans le cadre du travail. On casse la croûte des fois au travail, on a des papiers de bureau, etc. Et tout ça peut être jeté en tant que déchets ménagers. Mais les déchets professionnels à proprement parler, liés à l'activité économique, ne devraient pas rentrer dans le circuit. Là, c'est un choix politique qui a été fait de longue date, de les accepter parce qu'on est éloigné, qu'il n'y a pas toutes les filières, etc. Et tant que ça reste raisonnable, pour l'instant, c'est pas remis en question. Voilà. Et il y a une deuxième catégorie de professionnels qui ont, eux, une redevance spéciale qu'ils payent à la communauté de communes. Donc ce sont les campings et les centres de vacances qui payent à l'emplacement une redevance annuelle qui couvre le rendu du service, parce que là, c'est pas neutre. En été, les campings font entre le tiers et la moitié du doublement des volumes collectés. Donc, voilà.
C'est pas rien, quoi.
C'est pas rien.
En fait, l'objectif principal de cette nouvelle carte, c'est d'éviter que des gens viennent de Montélimar avec leur camion rempli à gras-bord de déchets.
Voilà, essentiellement.
Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, en fait.
Ah ben non, puisque la consigne donnée aux gardiens, c'est de demander la carte. Alors, vous aurez sûrement une chance au ratage, qui est que si vous n'avez pas eu l'information, le gardien va vous dire « Mais est-ce que vous avez votre carte ?»« Ah, je ne savais pas. » Bon, vous pourrez passer la première fois. Mais si le gardien vous voit venir une seconde fois sans carte, et d'autant plus si vous venez tous les jours sans carte, au bout de deux ou trois fois, vous aurez l'accès qui vous sera interdit. Et c'est la consigne qui est donnée au gardien.
Si j'ai bien compris, c'est une des raisons pour lesquelles vous avez embauché, entre guillemets, un service civique, à savoir Noémie, pour accompagner ce changement de pratique.
Voilà, tout à fait, parce que je vais être présente, donc sûrement au niveau du mois de juin, je vais être présente en déchetterie pour comptabiliser en fait les particuliers et les professionnels qui viennent pour ensuite avoir une référence là-dessus. Quand ils arrivent en déchetterie, je leur demande si c'est des particuliers, des professionnels, et on regarde à peu près la quantité de déchets qu'ils vont déposer dans les bennes. Et voilà, et après j'aurai un travail de restitution à faire par la suite.
Je vois deux entrées dans ce processus. Le premier, c'est à destination pédagogique des gens qui mettent des déchets dans la déchetterie, mais aussi pour vous, non, peut-être avoir des notions statistiques de voilà. Ce qui est traité. Et alors, vous allez en faire quelque chose, peut-être ?
Oui, c'est sûr qu'on en fera quelque chose, mais pour l'instant, moi, personnellement, je ne peux pas l'expliquer.
Je peux dire quoi en partie ? On soupçonne aujourd'hui que dans la benne à encombrant, il y a encore beaucoup de déchets qui n'ont pas y aller. Donc il faut savoir que ce qu'on met dans la benne à encombrant, ça va directement dans un trou à l'enfouissement, à Chatuzange-le-Goubet. Ça coûte 100 euros la tonne plus le transport. Et par exemple, en septembre, j'espère, on aura réaménagé la déchetterie de Die avec une marche en avant, c'est-à-dire que l'entrée ne sera pas la sortie. Il y aura une entrée distincte de la sortie. Et à droite et à gauche de votre passage, vous pourrez, comme dans la plupart des déchetteries, déposer dans une benne ou dans l'autre. Et ça nous permettra de rajouter deux ou trois bennes différentes par exemple une benne pour les portes et fenêtres, une benne pour le plâtre. Et ces deux bennes, par exemple, nous permettraient de traiter ce qui va aujourd'hui dans les encombrants, de le traiter à un coût de 50 euros la tonne au lieu de 100. Donc c'est pas neutre, puisqu'il y a quelques dizaines de tonnes qui sont concernées dans l'année pour ces deux matériaux-là. Mais je dis quelques dizaines de tonnes, je ne sais pas le quantifier exactement. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur ces matériaux-là, mais aussi sur d'autres, on va regarder si on a un gisement suffisamment important pour se permettre d'avoir une benne à part pour du plastique en mélange, par exemple, parce que certains plastiques sont recyclables, s'ils sont bien triés, pour du polystyrène, etc., etc. Et si on a assez, on se permettra progressivement d'installer des nouveaux flux de tri en déchetterie si on trouve des acheteurs ou des repreneurs à moindre coût, ou des fois des repreneurs qui payent des acheteurs, donc, parce que certains matériaux sont rachetés.
Donc on t'a formé un petit peu, Noémie, à tout ce que tu dois être capable de dire aux gens qui vont arriver, dire oui, alors le plastique, ce serait plutôt
voilà.
Par là.
Voilà, c'est ça. Enfin, là, j'ai déjà passé une journée en déchetterie avec Charlie, pour ceux qui connaissent, Adi. Et normalement, je vais avoir d'autres jours où, comme ça, je vais l'aider à, aider à débarrasser les camions et tous les déchets qu'il y a à mettre dans les bennes appropriées.
Alors, si je ne m'abuse, Philippe, la gestion des déchets est, budgétairement parlant, un des gros postes de la communauté de communes d'Iwa, si je ne m'abuse. Est-ce que tu saurais quantifier cela ou pas ?
Ah oui, le budget du service, c'est 1,8 million environ par an. Et il est financé par la taxe ordures ménagères, qui rapporte 1,4 million environ. Les redevances des campings, 100 000 euros. Et 300 000 euros de recettes qui sont liées soit à la vente de matériaux, soit à des aides des éco-organismes, qui sont des organismes qui collectent de l'argent quand on met des produits sur le marché. Quand on met du papier sur le marché, quand on met un canapé sur le marché, vous avez une écotaxe qui est prélevée et qui est redistribuée en partie aux collectivités, donc ça rentre dans nos recettes, en partie aux recycleurs pour améliorer leur process et en partie aux industriels pour changer leur façon de fabriquer les emballages pour qu'ils soient plus facilement recyclables. Voilà.
Depuis que tu es affecté à cette mission, est-ce que, à ton avis, tu as pu constater qu'il y avait encore un effort de pédagogie au niveau des pratiques des habitants du Diwa? Il y a des fois, on retrouve des cartons dans les poubelles ou on retrouve du verre dans les sacs poubelles aussi. Est-ce qu'il y a encore de quoi faire? Encore une fois, le rôle de Naomi serait en matière d'éducation. Et comme on dit, l'éducation, c'est la répétition. Il faudrait le redire encore.
Alors, nous allons répéter plus que les 8 mois de présence de Noémie. L'objectif, c'est que la répétition soit permanente dans voilà. Cette affaire, parce qu'il y a effectivement des efforts à faire. Le Diwa a fait beaucoup de progrès en matière de tri. Il faut savoir qu'à peu près tous les ans, un habitant jette 500-520 kilos de déchets, dont, dans le Diwa, encore 200 kilos par an et par habitant d'ordures ménagères qui vont dans les bacs gris, hein, qui allaient avant dans les bacs à roulettes. Avec la réforme, mécaniquement, on va enlever 20% de ces 200 kilos. C'est les premiers chiffres qu'on a. On va tomber à 160 kilos par an par habitant. Le reste, on va le retrouver un peu plus dans le tri, un peu plus en déchetterie. Et en déchetterie, essentiellement dans la benne à encombrants, donc pas complètement triée. Donc c'est pas complètement satisfaisant. Il faut savoir qu'il y a des collectivités en France qui sont tombées à 80 kilos au lieu de 160. Les Italiens sont passés à entre 50 et 80, l'Italie du Nord. Et des fois, ils ont divisé par 4 en 2-3 ans leur poubelle ordure ménagère. Et certains Basques sont arrivés à 10 kilos par an et par habitant. Donc la marge de progrès est extrêmement importante. Et c'est progressif. Et le travail d'ambassadrice du tri de Noémie, c'est d'aider les habitants à chacune des étapes, à chaque geste de tri. Donc le premier, il est chez soi. Plus on trie à la source, plus facile est derrière la collecte et le retraitement et la valorisation de ces déchets-là. Donc le guide du tri, l'idée, c'est de plus le diffuser et le commenter surtout. Le commenter sur la place publique, voilà. Et le commenter avec des caractérisations. Noémie en parlera tout à l'heure. On va faire des caractérisations de ce qu'il y a dans notre poubelle. On en a déjà fait en septembre dernier. On en refera. Donc oui, il y a une énorme marge de progrès.
Caractérisation, qu'est-ce à dire ?
Alors, qu'est-ce que c'est une caractérisation ? Donc, c'est-à-dire, en fait, on va prendre un conteneur semi-enterré. On va vider les poubelles qu'il y a à l'intérieur sur une bâche. On va ensuite ouvrir les sacs plastiques. et retrier ce qui n'a pas été trié dans les poubelles. C'est-à-dire qu'on va séparer les fermentés cibles, les bouteilles en plastique, les bouteilles en verre. On va les disposer dans des caisses que l'on va peser et auxquelles on va pouvoir voir aussi le volume pour ensuite ben, indiquer aux gens qu'ils pourraient trier plus et ainsi...
gagner des kilogrammes excédentaires.
Voilà. Par exemple, le 23 septembre 2015 au Mazel, on a ouvert, alors, il n'y avait pas de conteneur semi-enterré, on a ouvert 4 ou 5 bacs poubelles et on s'est aperçu que dedans, il y avait 40% du poids qui était des ordures ménagères, mais en volume, c'est un peu moins, c'est de l'ordre de 25%. Mais on avait en poids encore 30% de ce qui devrait être dans des colonnes de tri sélectif, du verre, du papier et des emballages. On avait 15% en poids en fermenté cible. Et on avait 7,5% en poids des matériaux qui pouvaient être triés en déchetterie. Donc la marge de progrès est très importante, de l'ordre de 60% et des fois jusqu'à 75% de ce qui est dans notre poubelle n'a pas à y être.
Vous avez parlé tout à l'heure de déchets fermentés cibles. C'est un des premiers facteurs de poids dans une poubelle individuelle. Encore faudrait-il que pour nos citadins d'Iwa, il y ait des moyens de compost collectif. Est-ce que vous y pensez à la communauté de communes d'Iwa?
C'est prévu.
Oui, oui.
C'est prévu. La décision a été envisagée. Elle est prise au niveau de l'exécutif, de dire on veut y aller. On avait décidé à la communauté de communes de la décaler de la mise en place de ces nouveaux points propres pour qu'il y ait d'abord des bonnes habitudes de prise au niveau du tri et qu'il n'y ait pas l'envie de jeter dans un bac à compost collectif des sacs poubelles par commodité. Parce qu'on avait la crainte d'incivilité. Or, la réforme se passe très bien, bien mieux qu'ailleurs et mieux que ce qu'on avait prévu. Du fait de sûrement des conseils et puis de la bonne discipline des Diwa en général sur les gestes de tri et sur le respect des espaces qu'on tient propres le mieux possible. Donc les composteurs collectifs, l'objectif c'est de les installer fin 2016, début 2017 dans les principaux bourgs-centres en accord avec les communes, donc à Di, à Luc, à Châtillon, à La Motte. Il y avait une collecte de fermentés cibles, elle est arrêtée depuis fin mars, enfin elle va être arrêtée mardi prochain, pardon. Et dès demain, on va installer un composteur collectif qui sera fini d'installer fin de semaine prochaine. Et donc, du coup, il y aura une solution en place à La Motte dès la semaine prochaine. Et on regardera également sur Luce-la-Croix-Haute ou Saint-Nazaire-le-Désert s'il y a des besoins spécifiques. Là où il n'y a pas de jardin à proximité, là où les gens ne peuvent pas s'arranger facilement entre eux, d'avoir un compost collectif à disposition sur les points propres, sur certains points propres. Donc, dans l'Iwa, je pense qu'une vingtaine de points peut-être seront installés en fin d'année. Avec l'information, la sensibilisation qui va avec, il faut des responsables de quartier là-dessus, pour que ça marche bien.
Voilà. Oui, un peu de pédagogie encore une fois pour expliquer ce qu'on met ou ce qu'on ne met pas. Ouais. Donc ça veut dire quand même une politique ambitieuse, tout à l'honneur de la communauté de communes, c'est-à-dire trouver donc des ambassadeurs, des emplacements, rassurer les citadins que non, il n'y a pas plus de rats, non, ça ne sent pas mauvais.
Il n'y a pas plus de rats que dans des poubelles et ça ne sent pas mauvais si on s'en occupe bien.
Et donc justement, vous êtes en cours de sélectionner des personnes ressources.
Voilà, donc je suis notamment là pour ça. Et courant de l'année, il y a un autre service civique qui va être embauché aussi par la communauté des communes. Donc on sera deux pour faire ce travail.
Voilà, recherche des personnes relais pour chaque composteur et mise en place du service en fin d'année.
Dernière petite question sur le chapitre des composteurs. Par exemple, à Di, on va à pied d'un bout à l'autre de Di en 10 minutes, mettons. Il pourrait y en avoir combien de composteurs collectifs?
Je ne sais pas, moi je dis entre 5 et 15.
Ah quand même? Ah non, je pensais que tu allais me dire entre 2 et 3.
Non, c'est entre 5 et 15.
On n'aura pas obligé de prendre son bac à compost jusqu'au autre côté pour l'unique bac à compost collectif.
Non, parce que si on regarde le déchet fermenté cible, il pèse, mais surtout il sent. Si on le laisse traîner, c'est pareil dans sa cuisine que dans la poubelle. Donc c'est quand même un déchet qu'on a envie de sortir plutôt tous les jours ou tous les deux jours qu'une fois par semaine, comme on pourrait sortir notre poubelle. Puisque une poubelle de 4 personnes, une fois qu'on a bien trié, ça ne devrait pas peser, ça ne devrait pas faire plus de 30 litres. Pour une semaine, pour 4 personnes. C'est ce à quoi j'arrive, moi, par exemple. Et du coup, c'est encore trop, mais c'est léger. Une poubelle de 30 litres, ça pèse rien, quoi. Et ça, on peut le sortir une fois par semaine. Mais si vous laissez pendant une semaine vos déchets de cuisine sur le coin de votre évier, en été, vous n'allez pas rigoler au bout de 3 jours. Quoi, hein. Donc l'idée, c'est qu'on ait un service un peu plus proche quand même.
Donc un certain nombre de relativement petits composteurs parsemés dans les bourgs-centres.
Ce seront des gros, mais voilà. Mais parsemés, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit facilement accessible. S'il n'y en a que 2 sur 10, les gens ne l'utiliseront pas. Mais oui. Tout ça est à construire, puisqu'il faut l'accord des communes sur le choix des emplacements. Et voilà, il faut qu'il y ait des habitants motivés et que nous ayons mis en place l'accompagnement. Donc ça, c'est ce que Noémie va organiser cette année avec son ou sa collègue quand elle arrivera.
Non, ça fait quand même beaucoup de chats à fouetter d'un seul coup.
Oui, mais je vais tenir bon.
Alors, moi, si je peux me permettre de t'interpeller, Philippe, en tant que citoyen, sur 2 ou 3 sujets supplémentaires en ce qui concerne la gestion des déchets. En particulier, il m'est arrivé de m'étonner d'un panneau d'affichage qui était sur le contenant semi-enterré circulaire qui était marqué « carton journaux », mais il y avait un petit panneau « ne mettez pas de carton ». Alors là, je ne savais plus quoi faire. J'ai commencé à douter de moi, mais zut, que dois-je faire de mes cartons ? Je repars avec, je les mange.
Alors nous, on mange notre chapeau là-dessus. C'est une erreur de conception de cette signalétique. Bon, le coup est parti il y a longtemps, il est parti il y a plus d'un an. Donc là, on est en train de récupérer cette affaire, là, parce qu'on a eu beaucoup de retours. Et effectivement, cette signalétique, elle n'est pas comprise par plein de gens. Je peux l'expliquer, par contre, pourquoi ça a été mis comme ça. Il est mieux de mettre ces cartons ondulés, et notamment ces cartons de grande taille, en déchetterie. Les cartons de grande taille, je dirais même, il faut les apporter en déchetterie. Et les cartons de petite taille, mais qui sont du carton ondulé, c'est mieux aussi de les apporter en déchetterie et de ne pas les mettre dans ce conteneur à carton. Pourquoi ? Parce que la filière de retraitement des papiers et des cartons traite plus facilement et à coût correct en termes de prix de reprise du papier et des cartons fins, type emballage de pot de yaourt par exemple, ou boîte de céréales. Ça, ce sont des cartons qui se recyclent très bien dans la filière qui est au bout de nos bacs bleus. Les cartons ondulés dans cette filière-là provoquent plutôt des pénalités. Si on en met trop, on est moins payé. Et c'est paradoxal parce que si on les met bien en déchetterie, ils nous sont mieux payés que les papiers qu'on met dans les colonnes. Donc, parce qu'on va trouver une filière spécifique qui ne nécessite pas un surtri. Et si vous les mettez en déchetterie, en plus, ils sont valorisés dans la Drôme, donc sur un circuit extrêmement court. Donc c'est mieux de les mettre là-bas. Ça, c'est au bénéfice de la collectivité, donc des impôts qu'on n'a pas à prélever parce qu'on vend mieux ce carton-là. Et ça nous évite des problèmes de retri ou de surtri dans les colonnes à papier qui, elles, seraient pour nous des pénalités financièrement parlant. Donc c'est pour ça que cette étiquette avait été mise. Mais pratiquement, si on a un peu de carton ondulé dans ces colonnes papier, ce n'est pas dramatique. Et c'est s'il y en a plus de 15, 20, 30% qu'au bout d'un moment, on va être pénalisé et que ça devient un problème et qu'on perd beaucoup de recettes. Du coup.
Alors qu'est-ce que vous avez proposé ? Vous allez mettre un panneau explicatif sur le...
On va changer les étiquettes, tout simplement. Voilà. Changer les étiquettes en disant que des petits cartons sont autorisés. Une boîte à pizza en logo, par exemple, pourrait être mise là-dedans. Voilà. C'est en cours, elles sont arrivées, sont en cours d'être collées pour les premières.
Cet après-midi, j'en colle quelques-unes déjà. Donc.
Voilà, et tous les points, parce qu'on a une commande complémentaire à faire, là c'était sur les nouveaux points qu'on les mettait, on va le généraliser partout, si les élus en sont d'accord, là on est en demande d'autorisation. L'idée c'est de généraliser ces nouvelles étiquettes à échéance d'un mois et demi sur tout le Lyois.
Néanmoins, ce qui est passionnant, c'est qu'en posant cette question en tant que citoyen, j'ai eu une vraie réponse. C'est-à-dire qu'effectivement, les cartons ondulés n'ont pas la même filière de retraitement que les cartons fins. Et donc, c'est bien de le savoir, quoi. Enfin, je trouve que c'est...
Parce que du coup, ces cartons, quand les gens voient cette étiquette, ce dont on s'est aperçu, c'est que les cartons, ils les mettent des fois pas dans ces colonnes papier. On pourrait dire tant mieux. Mais ils les mettent dans la colonne emballage. Parce que pour eux, emballage, c'est carton. Ce qui est un raccourci compréhensible aussi. Donc les deux signalétiques combinées font qu'on retrouve beaucoup plus de cartons qu'avant dans les emballages. Alors les emballages, c'est encore plus compliqué parce que là-dedans, on a 30 à 40% des choses qui y arrivent qui ne devraient pas y arriver, dont en majorité les cartons. Alors sur les cartons, on va essayer de corriger le tir en disant mettez-les en déchetterie et les plus petits, mettez-les avec les papiers. Et sur le reste des emballages, on va patienter parce que c'est une filière en pleine reconstruction qui fait que Aujourd'hui, par exemple, on ne prend pas les pots de yaourt, on ne prend pas les barquettes, mais il y a plein de gens qui les mettent parce que dans certaines régions françaises, ils ont commencé à les trier, à les accepter, et que la couverture française sera terminée en 2022 et que nous, d'ici 2022, on acceptera aussi les pots de yaourt et les emballages. Donc on ne va pas taper sur les doigts des gens qui font déjà ce tri-là pour leur demander de le faire ensuite demain. C'est aberrant. Donc on accepte plus d'erreurs de tri dans cette colonne. Par contre, sur les papiers, soyons sages. Trions bien.
C'est une vraie question. Quand il y a des erreurs de tri, est-ce que ça veut dire que la communauté de communes du Diwa affecte du personnel au retriage issu des colonnes, ou est-ce que vous payez des pénalités parce que, au bout de la chaîne, les sous-traitants eux-mêmes affectent du personnel, de la machine pour faire ce mauvais tri?
Alors, s'il y a trop d'erreurs de tri, on peut payer des pénalités. S'il y a des ordures ménagères, notamment dans les flux de tri. Donc, ça nous est déjà arrivé en début d'année. Là, on a eu deux bennes qui ont été refusées, qui ont été reclassées en ordures ménagères. Donc, elles sont reparties du centre de tri. Voilà. Et nous, on n'a pas eu la recette liée à ces bennes-là. Sinon, ça fait plus de boulot pour les employés de la chaîne de tri du CITRAD, le syndicat de traitement Drôme Ardèche, qui est basé à Port-Clévalence, où il y a un tri mécanique, mais il y a aussi un tri manuel qui est fait. Et donc, c'est beaucoup plus de travail, c'est gênant. Je crois que d'ailleurs qu'il y a des portes ouvertes bientôt, si vous regardez sur le site du CITRAD, si vous voulez voir le fonctionnement de ces sites, centre de tri et centre de valorisation organique, des portes ouvertes sont organisées des samedis dans les jours qui viennent.
Une dernière petite question qui revient un petit peu en arrière, c'est quand tu as parlé des encombrants qui étaient enterrés directement. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les encombrants en général? Parce que moi, je pense par exemple à des éléments qui sont composés de plusieurs produits. Je pense à une chaise qui aurait une armature en fer, un dossier en bois, des accoudoirs en tissu, etc. Et ça, on les retrouve dans les encombrants ou pas?
Alors, la chaise, on ne devrait plus. En tout cas, Adi, on ne doit plus. Puisque Adi, vous avez depuis avril dernier une benne écomobilier qui récupère tout le mobilier sur lequel on s'assoit, sur lequel on pose, sur lequel on dort ou sur lequel on range. C'est facile, qu'il soit en plastique, en métal, en bois, en matériaux, en multimatériaux. Tout ce mobilier-là, où l'on se pose, où l'on s'assoit, où l'on range et où l'on dort, va dans la benne écomobilier. Donc déjà, ça nous a enlevé 40 bennes, 100 tonnes l'année dernière sur 1000 tonnes d'encombrants. Donc c'est 10% qu'on a dérivés, qui sont évacués gratuitement, au lieu d'être évacués à 100 euros la tonne. Donc là, on fait des économies aussi sur ce flux-là. Dans les autres déchetteries du Diwa, les bennes à écomobilier vont être ajoutées progressivement, puisque la filière est en cours de création et de développement, et on n'a pas, pour l'instant, les bennes à mettre. Le quai est prêt à Minglon, ce sera la déchetterie suivante, puis ensuite ce sera sûrement Luc. Et là, on a 90% des flux qui passent par ces trois déchetteries, dit Luc et Minglon. Et ensuite, on équipera Luce-la-Croix-Haute et la Motte-Chalancon. Voilà. Mais il y a aussi, dans la benne à encombrants, plein d'autres choses que les meubles qui pourraient ne pas y être. J'ai cité tout à l'heure le polystyrène, les portes et fenêtres, mais c'est à nous de nous organiser pour proposer des filières, déjà de dépôts spécifiques en déchetterie, et ensuite, nous, il faut qu'on trouve un repreneur pour ces matériaux-là.
Question suivante d'un citoyen, lambda, qui me téléphone présentement. Allô ? Oui ? Ah, d'accord. Vous vous posez la question de savoir pourquoi il reste encore dans certaines parties du Diwa un certain nombre de vieux contenants. Ah, Philippe, alors pourquoi donc y aurait-il encore dans certaines parties du Diwa des équipements à l'ancienne ?
Notamment des colonnes de tri, des vieilles colonnes de tri, papier, verre ou emballage. Parce qu'on ne peut pas tout changer en même temps. Donc il y a eu un énorme investissement fait l'année dernière sur les conteneurs semi-enterrés. Donc le choix a été fait de le faire sans emprunter sur des réserves qu'on avait. Donc on est allé au bout de ces réserves-là. Maintenant, on va changer les conteneurs colonnes aériennes. C'est prévu, un marché est signé sur 4-5 ans pour changer la totalité des colonnes aériennes de tri du Diwa qui ont 15 ans d'âge en moyenne. Beaucoup sont encore abîmées. On va les changer par des colonnes neuves. Et sur les colonnes emballage et les colonnes papier, on va mettre un système de préhension qui permet à notre nouvelle grue du camion ordures ménagères de les attraper aussi. Donc c'est un système plus précis et plus rapide de manutention de ces colonnes, qui est un système de rotation en fait, qui permet l'ouverture de la colonne. Alors que jusque-là, on avait à les taper sur le camion, c'était un peu rustique, hein, mais pour qu'elle s'ouvre. Donc là, l'idée, c'est que sur le papier et les emballages, ça passe avec ce nouveau système, et les colonnes vertes seront changées en même temps. Et là, le crochet ne changera pas, puisque notre prestataire a un crochet simple pour les collecter.
Étrangement, j'ai vu qu'il y avait certaines colonnes de tri de différents types. Alors bon, il y a les fameuses, je ne sais pas comment vous les appelez, les semi-enterrées circulaires. Oui. Et puis, il y en a encore des qui sortent de terre à l'ancienne. Mmh. C'est grave ou pas ?
Non, c'est pas grave. On a acheté 10 colonnes ordures ménagères aériennes qui étaient destinées à deux choses. À une installation temporaire en saison estivale ou sur un point qu'on aurait sous-dimensionné pour secours, en fait. Et en fait, elles sont déjà toutes utilisées sur des chantiers qui ne sont pas terminés, sur 10, place Saint-Pierre, vous avez pu le voir, sur des points où on n'était pas sûr d'enterrer, au Perrier, au lycée. Donc il y en a 5-6 qui sont utilisés donc, sur des chantiers à venir où il y aura un enterré au final. D'autres sur des points qui ont été mis à titre de test pour quelques mois ou années, à Archiane, à Borne, et une autre au CLAPS, parce que là, le dossier pour mettre un semi-enterré, vu que c'est un site inscrit, classé, non, ça aurait été difficile à obtenir. Donc là, on a mis une colonne aérienne qui supposait aucune demande d'autorisation. Vous verrez même des colonnes aériennes bricolées cet été, puisque du fait qu'on avait prévu 10 colonnes pour le secours, ben, elles sont toutes utilisées aujourd'hui. Donc sur certains points, quand il y aura besoin de les doubler, on mettra des vieilles colonnes de tri recyclées, redécoupées. Mais ça, c'est provisoire, quoi. Ça, j'espère que ça passera pas plus que cet été.
Voilà. En tout cas, ça vous fait beaucoup de changements, une transition en pleine action, je dirais.
Oui, parce que tous les jours, il y a 30 tonnes de poubelles qui sont produites par les Diwa. Il faut les évacuer et en même temps changer une entreprise qui a 10 salariés et des investissements lourds. En fait, à chaque fois qu'on change quelque chose, que ce soit un camion ou des conteneurs semi-enterrés, ce sont des investissements assez lourds. Il faut être sûr de notre coût quand on fait cet investissement-là pour pas que la facture du contribuable dérape.
Et oui, tu l'as rappelé tout à l'heure, 1,8 million de budget de fonctionnement, de récupération de déchets, déchets très compris, tout compris.
Tout compris. Juste sur les colonnes de tri, pour dire que les dernières colonnes neuves commandées pour 2016 sont en train d'arriver. Elles seront installées d'ici mi-mai, on va dire, au plus tard. Tout comme seront équipés certains campings avec des colonnes de tri qui n'avaient pas jusque-là. Donc vous verrez que les points où il y a déjà une colonne neuve, normalement, auront 3 colonnes neuves d'ici un mois et demi. Et les autres points changeront entre 2017 et 2018-19 pour les derniers.
Alors, avant de se quitter, Noémie et Philippe, dernière question, on a vu au cours de cette conversation que l'aspect pédagogique pour aider les gens à faire leur propre transition, leur propre bon tri de déchets nécessitait des efforts. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Noémie, plus un deuxième service civique, entre autres, va être embauchée. Quelles autres actions sont menées par la communauté de communes du Diwa pour justement accompagner ces changements de pratiques? Quels outils pédagogiques employez-vous, outre la radio et les médias locaux, pour expliquer aux citoyens comment faire?
Bon, il y a déjà sur les bacs de tri, enfin la signalétique qui indique comment faire. On a aussi les guides du tri, donc ils sont donnés aux particuliers lorsqu'ils viennent chercher leur carte. Après, sur le site de la communauté des communes, on peut trouver pas mal d'informations aussi. Voilà.
Puis surtout, on a des services civiques.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on ne remplacera jamais la discussion, puisque changer un comportement, c'est changer une habitude souvent, et changer des croyances des fois. Dire oh, ben, ça ne sert à rien que je trie, parce que de toute façon, il mélange après dans le camion. Ben non, on ne mélange pas. Tout ce qui est trié derrière, c'est valorisé. Et puis, ça fait des années qu'on nous le demande, ça a bien dû progresser. Oui, ça progresse depuis des années. On est passé de 4400 tonnes d'ordures ménagères dans le Diwa à 2700 tonnes. Donc ça, c'est des choses qui sont chères. Et grâce à ces efforts-là, on n'a quasiment pas touché à la taxe d'ordures ménagères ces dernières années, alors que le coût de traitement, lui, a largement augmenté. Donc oui, ces efforts servent. Donc il faut se le redire. Et oui, la réforme est en train de marcher, puisque par exemple la collecte des papiers qui était en baisse, c'est une tendance nationale, on consomme de moins en moins de papier, donc on en jette de moins en moins. Sur le Diwa, la collecte des papiers, les trois derniers mois de 2015, est remontée de 10% après la mise en place des nouvelles colonnes de tri et des points propres complets, où vous avez toujours une offre de tri. Donc si on offre le choix aux citoyens mécaniquement de mieux trier, ce qui est fait, il fait le boulot, lui. En général, il fait le boulot proprement. Voilà, il y a des exceptions, mais en général, il fait le boulot. Mais on a encore du boulot à faire. Voilà. Et c'est important que ce soit dans la discussion. On ne remplacera pas l'échange, l'exemple, l'explication du pourquoi. Et des papiers, les gens les lisent, mais des fois, ils disent, tant pis.
Oui.
D'autres le feront. Voilà. Et les efforts se mesurent. Donc le papier, c'est plus 10%. Et les emballages, je ne l'ai pas dit, c'est deux tiers d'emballage en plus dans les colonnes jaunes. Donc on a presque multiplié par deux la collecte des emballages du jour au lendemain.
Que vous arrivez à vendre d'ailleurs, c'est ça hein ?
Pas tous. Pour partie, on touche deux types de revenus sur ces emballages. On touche les éco-contributions. Plus on en collecte, plus on est payé par les organismes, les éco-organismes. Et plus on en collecte, plus le Citrate vend pour notre compte des matériaux. De l'aluminium pour les canettes, etc. Les plastiques, le polyéthylène, etc.
Voilà.
Très bien, bah écoutez, ma curiosité et j'espère celle de nos auditeurs sera satisfaite de votre venue ici pour nous parler du retraitement de nos déchets. Est-ce que vous connaissez cette fameuse blague de Jean-Yann ? Je l'adore, c'est une de mes blagues préférées.
Non.
Alors je vais vous la dire parce qu'elle est énorme, c'est « Tout le monde veut sauver le monde, mais personne ne veut descendre les poubelles. Et vous vous en occupez et je vous en remercie. » Philippe et Noémie, merci d'être passés à Erdiwa. À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Merci. Au revoir, Louis.
Interview. 1-ter-view.
Okay, the bird.
Interview. L'interview du jour.